Jamais je le sors dans le casier.
إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواتي في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبحمد الله سبحانه وتعالى نواصل بتوفيقه وعونه قراءتنا لكتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى مع شرح الدكتور سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله تعالى ووصلنا إلى باب اللقطة باب اللقطة فقال المؤلف رحمه الله باب اللقطة اللقطة هي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره. Donc, on poursuit bien Allah Azza wa Jalla notre étude du livre Sharh Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et on est arrivé donc au chapitre concernant ici ce qu'on appelle al-Luqata. C'est quoi al-Luqata? C'est, comme il dit ici le Sheikh Sulaiman, hafidhahullah ta'ala, c'est un bien qui a été perdu par son propriétaire et qui a été donc trouvé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est la définition de al-luqata. Donc, ça peut être un objet trouvé, un bien trouvé. Taïeb. Sa définition, je répète, c'est un bien perdu par son propriétaire qui a été trouvé par autre que lui. Taïeb. قال الصاحب المؤلف رحمه الله وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف قال الشيخ سليمان حفظه الله الصوت هو الجلد المطفور الذي يضرب به والقاعدة في هذا أنه إذا كانت اللقطة قليلة القيمة لا تتبعها همة أصات الناس وغالبهم فمن التقها فإنه يملكها ولا يلزمه تعريفها لأن الغالب في هذه الأشياء أنها إذا فقدت لا يسعى في طلبها ولا عبرة باهتمام الشحيح ولا تعفف كريم ودليل هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها أخرجه البخاري ومسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به أخرجه أبو داود وقال ابن حجر في الفتح في إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه Donc il dit ici, le Cheikh Sa'di, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a, al-luqata, donc on a dit le bien qui a été trouvé et perdu par son propriétaire, est de trois catégories. La première catégorie, celui dont la valeur est petite, celui dont la valeur est petite ou minime, tel que l'exemple qu'il a donné ici. Donc, par exemple, le fouet ou un morceau de pain, rarif, et autre que cela. Donc, ces objets, c'est bien s'ils sont perdus par leur propriétaire et donc puis ont été trouvés par d'autres personnes, eh bien ces personnes-là pourront garder ces objets ou ces biens sans faire ce qu'on appelle un ta'rif. On verra c'est quoi un ta'rif, inshallah ta'ala, après. Donc ils peuvent les prendre et alhamdoulilah, ils peuvent les garder et en faire yani ce qu'ils veulent et en disposer. Il dit le cheikh Sulayman al-Qusayri rahimahullah ta'ala, il dit par rapport déjà au mot sawt, c'est comme on a dit, c'est un fouet, donc c'est une peau d'animal ou du cuir qui a été tressé, ça y est, dans le but de frapper avec hein, le fouet. Et la règle en cela, donc la règle de cette catégorie de biens trouvés par quelqu'un, est que si ce bien-là a peu de valeur, ce qui fait que la majorité des gens, ils ne vont pas y accorder une importance yani, particulière. Ils ne vont pas aller chercher l'objet s'ils l'ont perdu quelque part. Ils ne vont pas faire d'efforts pour retrouver cet objet ou ce bien, tel que le fouet ou le pain ou autre. Vous voyez? Donc celui qui a trouvé ce bien-là, eh bien, il sera à lui. Il deviendra donc son propriétaire. Et il ne lui est pas demandé de faire ce qu'on appelle un ta'rif. On verra c'est quoi le ta'rif, inshallah ta'ala. Car la majorité, la plupart des gens, lorsqu'ils perdent ces choses-là, ils ne font pas cet effort pour les retrouver. Et on ne parle pas bien sûr des gens qui sont extrêmement radins et avares, qui vont faire l'effort quand même de retrouver même un objet qui a très peu de valeur. Et on ne parle pas non plus de ceux qui vont faire. Qui vont laisser ces objets-là et ne pas vouloir les prendre. Voyez? Donc la règle est la même, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la personne, il est permis de récupérer cet objet-là qui a été perdu et égaré par leur propriétaire, et de les garder pour soi et d'en devenir donc le propriétaire à partir de là, à condition, encore une fois, que ce soit un objet ou un bien qui a yani, peu de valeur. Non. Et la preuve de cela, le hadith d'Anas, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait trouvé une date. D'accord? Donc une date, hein, ça a peu de valeur. Et il a dit, si cette date ne faisait pas partie des sadaqat, des aumônes, je l'aurais mangé. Je l'aurais mangé. Donc ça prouve bien que les objets de peu de valeur, il est permis de les prendre, de les récupérer. Ce hadith, il est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rahimahumallah. Et également, selon Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a autorisé de prendre l'asa, le bâton ou la canne, le fouet, la corde et autres que cela. C'est-à-dire que la personne qui trouve ce genre d'objet peut les récupérer et peut en disposer comme il le veut. Ce hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Hajar a dit quand même que sa chaîne de transmission elle est faible et que les savants du hadith ont divergé sur, à savoir, est-ce que le hadith est marfoua, c'est-à-dire est-ce qu'il remonte bien jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, ou est-ce qu'il est au contraire mawquf, c'est-à-dire que la parole s'arrête en vérité au sahabi qui est ici Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. لكن قال العلماء في هذا الباب إن الأفضل لمن وجد شيئا يسير يعني من اللقطة أن يتصدق به ويلحق بهذا القسم ما يتركه صاحبه رغبة عنه كأن يجد بعض الكراسي المكسرة أو بعض الزنابيل أو بعض الأواني فهذه يأخذها ولا إثم عليه لأن صاحبها أخرجها من ملكه رغبة عنها. Les ulama ils disent, pour préciser encore plus cette catégorie de biens ou d'objets qui a très peu de valeur, ils disent que malgré tout, il est préférable, il sera préférable pour la personne qui trouve ce genre de choses, eh bien, d'en faire une sadaqa. D'en faire une sadaqa. D'accord? De les donner en aumône. Et rentre dans cette catégorie également les choses que les gens peuvent jeter, tailler, ou yani, laisser dehors, à l'extérieur, car ils ne veulent plus de ces choses-là. Taïeb. Comme par exemple, des fois, tu peux trouver à l'extérieur des chaises qui sont abîmées ou cassées, ou certains récipients. Taïeb. Donc ces choses-là, que l'on peut trouver, qui ont été abandonnées volontairement par leur propriétaire, il sera permis de les prendre, et bien sûr, on ne commettra aucun péché à ce titre. Car leurs propriétaires les ont délibérément abandonnés et laissés et sortis de leur propriété par conséquent, car ils ne les veulent plus. Taïeb, alhamdulillah. ثم قال المؤلف رحمه الله والثاني أي القسم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا فمثلها البقر والخيل والظباء وطير ونحوها فإنها تمتنع من صغار السباع كالكلاب ونحوها فلذا لا يجوز التقاطها لحديث زيد ابن خالد الآتي ومن أخذها ضمنها فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان ولا تملك بالتأريف لعدم إذن المالك والشارع فيه. طيب. Puis il dit l'auteur رحمه الله تعالى la deuxième catégorie de biens que l'on peut trouver. Ce sont ce qu'on appelle al-dawal, donc les animaux ou les bêtes qui ont été égarées, mais qui sont à l'abri des attaques yani, vis-à-vis des sirar et sibar, des bêtes carnivores petites, d'accord, yani, qui ne peuvent pas être attaquées par des petites bêtes carnivores, telles que les chiens, par exemple, qui font partie des sirar sibar, d'accord, des bêtes, des canidés ou des bêtes carnivores, mais petites. Et parmi donc ces bêtes qui peuvent être égarées et perdues, et qui sont à l'abri donc de toute attaque de petites bêtes féroces, telles que les chiens, eh bien, on a les chameaux. Donc, le chameau, s'il est égaré, le fait de trouver un chameau égaré, tu n'as pas le droit d'en faire ta propriété en le prenant avec toi, de façon absolue. De façon absolue, il dit le cheikh. Donc, il n'y a pas que les chameaux, il y a bien sûr les bovins, il y a les chevaux, il y a les antilopes, les gazelles. Il y a les oiseaux, bien sûr, qui peuvent être la propriété de certains. Et autre que cela, parmi les animaux. Donc, tous ces animaux-là qui ont ce point commun-là, qui est d'être à l'abri et ne peuvent pas être attaqués par des petites bêtes féroces ou carnivores, telles que les chiens et autres, eh bien, il n'est pas permis, pour celui qui les trouve, de les prendre. Et cela en vertu du hadith de Zayd ibn Khalid, que l'on verra après, Inch'Allah ta'ala. Donc celui qui les prend malgré ça, qui va prendre, il va trouver une vache par exemple, et il va la prendre pour lui, eh bien il devra verser un dédommagement, d'accord. Et si donc il l'a il la donne yani, aux dirigeants ou à ceux qui travaillent pour le dirigeant, dans ce cas-là, il n'aura pas de. Il n'aura rien à payer, alhamdoulillah. Il n'aura plus rien à payer. Donc, s'il la prend, et que même s'il fait ce qu'on appelle un ta'rif, yani, il va chercher qui est son propriétaire en annonçant yani, que telle ou telle bête a été perdue ou égarée, a été trouvée à tel et tel endroit, eh bien, cela ne le rend pas pour autant propriétaire de la bête. Pourquoi? Parce que il n'aura pas eu l'autorisation du propriétaire ainsi que du législateur, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était la deuxième catégorie, yani de biens que l'on peut trouver, donc c'est les bêtes, yani qui sont à l'abri de toute attaque de petites bêtes carnivores, yani telles que les chiens ou autres. Ouais. فهذا حكم لقطتها وهو عدم جواز ذلك لأنه لا يخاف عليها فقد الطعام والشراب ولا يخاف عليها الاعتداء. Donc, pour résumer, cette deuxième catégorie-là, c'est quoi le jugement? C'est qu'il n'est pas permis de les prendre. Pourquoi il n'est pas permis de les prendre? Car on n'aura pas peur pour ces bêtes-là qu'elles ne trouvent pas à manger. Non, elles vont trouver à manger. Elle est toute seule, d'elle-même, ou à boire, toute seule. Et elles ne craignent pas d'être attaquées par des petites bêtes féroces. Walhamdulillah. Taïeb. Wa thalith, ma siwa dhalik. Fayajouzu iltiqatuhu wa yamlikuhu idha arrafahu sanatan kamilatan. Taïeb. Yani, annama ada qalil al-qima alladhi la yahtammu bihi ghalibun nas. وما عدا الضوال التي تمتنع من صغار السباع فإنه يجوز التقاطه لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفه كالذهب والفضة والنقود والأمتعة والأثاث ونحوها وكذا ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والعجول والدجاج وهكذا وتعريفها يكون بأن ينادي عليها في الأسواق وعند أبواب المساجد أوقات الصلوات ويقول من ضاعت له نفقة أو نحوها من العبارات ولا يذكر شيئا من صفاتها ويكون التعريف من حين التقاطها لأنه أحرى أن يجد صاحبها ويكثر من التعريف في أول الأيام ثم يفعل ما يمكنه أن يجد صاحبها لمدة سنة كما دل عليه حديث زيد بن خالد وعن معاوية ابن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها أخرجه مالك وبعد مرور سنة يملكها لكن إذا جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيه إياها لأنها ماله وهو أحق بها ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. Ensuite, la troisième catégorie de biens que l'on peut trouver et qui ont été égarés par leurs propriétaires, donc tous les biens qui ne sont pas ou qui ne font pas partie ni de la première catégorie ni de la deuxième catégorie. Donc cette catégorie-là, eh bien, il sera permis de ramasser ces biens et yani, de les prendre avec soi à condition que l'on va faire ce qu'on appelle un ta'rif. D'accord? Et on verra c'est quoi, inch'Allah, ta'rif. Et cela pendant une année entière. Une année entière. D'accord? Attendu, une année, c'est une année lunaire, bien sûr. Il dit, Cheikh Sulayman, hafidhahullah ta'ala, donc, tout ce qui n'est pas de valeur minime, et que donc, les gens ne vont pas porter attention à la perte de ce genre d'objet qui n'ont pas ou peu de valeur. Comme on l'a vu pour la première catégorie. Et tout ce qui ne font pas partie des dawal, des bêtes qui ont été égarées et qui sont à l'abri, hein, des petites bêtes féroces, etc. Eh bien, hormis la première et la deuxième catégorie, il sera permis de ramasser ces biens-là. Bien sûr, pour celui qui pense et croit pour lui-même qu'il est digne de confiance et qu'il est capable de faire ce qu'on appelle un ta'rif. D'accord? Donc, les objets, les exemples d'objets ou de biens qui font partie de la troisième catégorie, l'or, l'argent, la monnaie, les provisions de la personne, les meubles et autres que cela. Et également les bêtes qui ne sont pas à l'abri d'être attaquées par les petits félins ou les petites bêtes, yani carnivores, telles que les moutons, les agneaux, les chèvres, les petits des vaches, yani les veaux ou la volaille, etc., etc. Ça y est. Donc tous ces exemples-là que l'on vient de donner font partie de la troisième catégorie. Donc maintenant, on va voir c'est quoi tarif. Tarif, eh bien, c'est le fait que la personne qui a trouvé ces objets ou ces biens ou ces animaux égarés, elle doit faire ce qu'on appelle une annonce. D'accord? Une annonce, que ce soit dans les marchés ou aux portes des mosquées à l'heure des prières. D'accord? En disant par exemple, Man dha'at lahu nafaqa, yani qui a perdu yani une provision ou un objet ou un bien. D'accord? Ou autre que cela parmi les expressions. Et attention, elle ne doit pas donner les descriptifs de cet objet-là. D'accord? Elle doit rester donc vague et générale en disant qui est-ce qui a perdu ce bien, yani. Cet objet, ou ce meuble, ou ce mouton, etc., mais sans donner les descriptifs en détail. D'accord? Il dit le cheikh Suleyman que lors des premiers jours, il doit faire beaucoup de ta'rif, faire beaucoup d'annonces, aller dans les marchés, encore une fois, les mosquées, etc., ou à la porte des mosquées, pardon, pour justement poser ce genre de questions plusieurs fois. Puis, passer les premiers jours, yani, il fait ce dont il est capable pour trouver son propriétaire, et cela pendant une année. Pendant une année entière, comme le prouve le hadith de Zayd ibn Khalid. Également, selon Muawiyah ibn Abdullah ibn Badr al-Juhani, qui a dit que son père lui a informé, donc Abdullah ibn Badr al-Juhani, lui a informé qu'il était descendu dans une maison de certaines personnes, taïeb, en passant par le chemin de Hachem, de la région du Chem. Et il a trouvé un sac, un genre de sac, dans lequel il y avait 80 dinars. Dans lequel il y avait donc 80 dinars. Donc là, c'est des biens, cet argent-là fait partie de la troisième catégorie. D'accord? Pour laquelle il est, on peut les prendre à condition de faire ce tarif. Et donc, il a informé de cette trouvaille à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui lui a dit, arrifha, c'est-à-dire fais le tarif, annonce aux gens, yani, en leur demandant qui est-ce qui a perdu tel ou tel sac ou tel objet, aux portes des mosquées, et yani, également, faisant part à tous ceux qui viendraient de la région du Chem pendant une année. Comme il a trouvé Yanni sur le chemin du Chem, faisant part également à tous ceux qui viendraient du Chem pendant une année. Et lorsque s'écoulera une année entière, eh bien, cela t'appartiendra et tu pourras en disposer comme bon te semble, c'est-à-dire des 80 dinars. Alhamdulillah. Hadith rapporté par Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et donc, après l'écoulement de cette année-là, eh bien, l'objet lui appartiendra à Bi'idhnillah. Mais si jamais le propriétaire se montre, même après une année, au bout de, par exemple, 2 ans, ou moins 1 an et 6 mois, par exemple, eh bien, il sera dans l'obligation de lui rendre son argent ou de lui rendre ses biens. D'accord? Parce que ce sont ses biens. Et il est, même après 2 ans ou 3 ans, il est plus prioritaire que quiconque par rapport à ses biens. Et cela en vertu de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Zayd ibn Khalid, qui a dit donc, Faïda ja'a sahibuha, et quand son propriétaire viendra, d'accord, yani tu lui donnes, illa fasha'naka biha. Et s'il ne vient pas, yani, eh bien tu pourras en disposer comme bon te semble. Na'am. فهذا كان القسم الثالث. وهناك قسم رابع. قسم رابع ذكره بعض أهل العلم من أقسام اللقطة. لقطة الحرم. وهذا القسم لم يتعرض له المؤلف رحمه الله. ولقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا إذا خاف عليها التلف. أو الضياع، ويجب على آخذها تعريفها ما دام في مكة، وإذا أراد الخروج سلمها لجهاد الاختصاص من حاكم أو نائبه أو من ينوب عنه، ولا يجوز تملك لقطة مكة بحال، ولا يجوز أخذها إلا لمن إلا لمن يعرفها إلا لمن يعرفها أبدا لا يجوز والدليل قوله تعالى أو قوله عفوا صلى الله عليه وسلم لا تحل لقطتها إلا لمنشد وفي رواية ولا يلتقط ساقطتها أو لا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد متفق عليه Maintenant, il y a une quatrième catégorie qui n'a pas été mentionnée par l'auteur Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. D'accord? C'est quoi cette quatrième catégorie? Eh bien, c'est les biens trouvés dans le haram, dans le territoire sacré de Mecca, le haram. D'accord? Donc, les objets ou les biens trouvés dans le haram, il sera interdit de les ramasser. Excepté si la personne a peur que ses biens ou ses objets soient détruits ou perdu, yani pour toujours. D'accord? Dans ce cas-là, il sera obligé pour celui qui est, donc qui a peur pour de qui a peur de ça et qui a pris ces biens-là de faire le tarif dont on a parlé tout à l'heure. Tant qu'il est à Mecca. D'accord? Mais si jamais il veut sortir de Mecca, il doit déposer ce bien ou cet objet-là aux organismes yani, qui sont habilités à récolter ces biens et ces objets, aux organismes officiels du pays. D'accord? D'accord? Donc les organismes yani, qui sont dirigés par le gouverneur, ses ministres et ceux qui travaillent pour eux, bien sûr. Donc, il n'est pas permis de s'emparer d'un luqata, d'un objet ou d'un bien trouvé, de la Mecque, quelle que soit la situation. Il n'est pas permis de le prendre, même pour celui qui veut faire un tarif. Jamais de la vie. Tu n'as pas le droit de devenir propriétaire, même si tu en fais un tarif. Et la preuve de ça, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, les biens trouvés yani, dans le haram ne sont pas licites sauf pour celui qui veut faire un ta'rif, un munshid. Ça veut dire sauf pour celui qui veut le prendre pour faire un ta'rif. Mais si il sort de Mecca, il n'a pas le droit de le prendre avec lui. Ça veut dire que tu n'as le droit de ramasser un bien trouvé dans le haram que pour faire un ta'rif, c'est tout. Mais tu ne pourras jamais en devenir un propriétaire, quoi qu'il arrive. Et dans une version, il dit également, et également, un objet trouvé ou un bien trouvé dans le haram, il ne peut être ramassé que pour celui qui veut faire un ta'rif. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Amma luqatatul hajj. Fa yahrumu laqtatuha. Bel tutraku hatta yajidaha sahibuha. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وتتميز لقطة الحاج بقرينة الزمان والمكان، فأما الزمان فأن تكون في أيام الحج، وأما المكان فأن تكون في أمكنة أو أمكنة تجمع الحجاج وازدحامهم. وتفارق غيرها بأن اللقطة أو لقطة الحرم تكون فيه، أما لقطة الحاج فقد تكون في الحل، فقد تكون يعني في الحل كعرفات وطرق الحجاج القريبة من الحرم والمشاعر. أي نعم. Quant aux biens trouvés, aux biens, aux objets qui ont été perdus, yani, par le pèlerin, yani, par celui qui fait le pèlerinage, il est interdit de ramasser ces objets-là. Il est obligatoire de les laisser là où ils sont jusqu'à ce que son propriétaire les trouve. D'accord? Donc la preuve de cela. Et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a interdit de ramasser les biens perdus par le pèlerin. D'accord? Donc, comment on va différencier, distinguer les biens perdus par le pèlerin? Eh bien, par des indices concernant le temps et l'endroit. Quant au temps, eh bien, ce sont des objets qu'on pourrait trouver durant les jours du pèlerinage. D'accord? On comprendra par là que c'est un bien qui a été perdu par un pèlerin. Et par rapport à l'endroit et le lieu, ce sont des biens qui seront trouvés dans des endroits où les pèlerins se réunissent, où il y a des foules de pèlerins, yani, qui sont présents à ces endroits-là. Donc ces biens-là vont se différencier des autres, hein, du fait que les biens trouvés dans le haram, yani, sont trouvés dans le haram, d'accord? Alors que les biens du pèlerin peuvent être dans des endroits qui ne sont pas dans le haram, dans des endroits, un territoire qui n'est pas à l'intérieur du haram. Donc ainsi, tu vas pouvoir différencier entre le bien du pèlerin et le bien que l'on peut trouver dans le haram. Donc parmi les territoires qui ne font pas partie du haram, on a par exemple Arafat, où on a les routes ou les chemins qui sont empruntés par les pèlerins et qui sont proches du haram, mais ne font pas partie du haram. D'accord? Et non. Et qui sont proches aussi des rites, des endroits rituels du pèlerinage. Non. D'ailleurs. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رحمه الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فسأله عن اللقطة أي فسأله عن أحكامها وكيفية التعامل فيها وكأن اللقطة هنا النقود وهذا يدل على أن من أسباب تحصيل العلم السؤال. طيب، فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل شجرة حتى يلقاها ربها. متفق عليه. نعم. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أما العفاص هو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلدا كان أم غيره. والوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء، يقال أوكيته إيكاء، فهو موكا بلا همز. ومعنى الحديث اعرف صفات اللقطاء لتعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا يختلط بمال الملتقط ويشتبه به. طيب، ولئلا يختلط بمال الملتقط ويشتبه به. نعم. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, selon Zayd ibn Khalid al-Juhani, il a dit, un homme est venu au prophète, alayhi salat wa salam, et il a interrogé au sujet de l'uqata. C'est-à-dire, il a interrogé sur les règles, justement, de l'uqata. Quelles sont les règles des biens ou des objets trouvés? D'accord? Et comment yani, se comporter face à ces objets-là? Comme si, ici, on pourrait comprendre que ce qu'il a trouvé, eh bien, est de l'argent ou de la monnaie. Et ce comportement-là qu'a eu cet homme-là, avec le fait de questionner le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre que parmi les causes de l'acquisition de la science, eh bien, le fait de poser des questions. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète, alayhi salatu wa sallam? Il a répondu, « I'rif ifasaha wa wika'aha. » Il a dit, « Prends connaissance. » Observe le bien que tu as trouvé et sache le comment de son ifas. C'est quoi la ifas? C'est le wi'a, donc c'est le récipient, d'accord? Ou il y a un sac ou un objet qui va servir à transporter quelque chose, qui va servir à transporter de l'argent, hein, par exemple. Que ce sac soit fait de cuir, ou autre que cela, il y en a parmi les matières que l'on peut trouver. D'accord? En tissu, en coton, par exemple. Donc, regarde de quelle matière, de quel tissu, de quelle couleur est ce sac. Et sache également son wicca. Et le wicca, c'est le fil qui va servir à fermer ce sac. C'est un fil qui va servir à noué, donc un nœud, et faire en sorte que ce sac soit bien fermé et étanche. D'accord? Donc on dit par exemple le verbe auka, aukaituhu ika'an. Donc j'ai fait un nœud, d'accord? On dit aukaituhu. J'ai mis un nœud, j'ai mis un fil afin de l'attacher et de fermer tel ou tel objet. D'accord? Donc le sens de ce hadith, c'est quoi? C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a bien recommandé d'étudier les caractéristiques de cet objet. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si quelqu'un viendra à toi pour te réclamer cet objet, tu vas lui demander de le décrire pour être sûr que la personne n'est pas une menteuse, pour être sûr qu'elle dit la vérité et qu'elle est bien la propriétaire de cet objet. Donc, à toi d'abord de connaître bien en détail les descriptifs de ce bien, pour savoir ensuite si la personne, lorsqu'elle va te décrire son bien, est-ce qu'elle est véridique ou au contraire, est-ce qu'elle est menteuse. Et aussi, également, pour ne pas mélanger ce bien-là et le confondre avec un autre bien à toi qui t'appartient. D'accord? Pour être sûr que cet objet-là, et que tu puisses le distinguer de tes biens à toi, et ne pas hein, tomber dans la confusion entre ta propriété et cet objet-là qui ne t'appartient pas. Voyez. Puis il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثم عرفها سنة. Et ensuite fait ce qu'on appelle tout à l'heure التعريف pendant une année. طيب. فمعرفة الوكاء وهو الخيط الذي تربط به والحديث يعمر الملتقط أن يعرف أوصافها من حيث الخرقة التي تكون فيها، هل هي من قماش أو من جلد أو من بلاستيك مثلا، ويعرف الوكاء هل هو خيط شعر أو مطاط أم غيرها. طيب، donc encore une fois, pourquoi connaître les descriptifs de ce fil, par exemple, de ce wicket, cette corde qui va servir à attacher un sac? Eh bien, pour la raison dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, il doit savoir si ce sac, déjà, par exemple, de quel tissu il est fait. Est-ce qu'il est fait de tissu? Est-ce qu'il est fait de cuir? Est-ce qu'il est fait de peau? Est-ce qu'il est fait de plastique, par exemple? Et également le wicket. Le wicket, donc, c'est ce fil-là. Est-ce qu'il est fait de poils? Est-ce qu'il est fait de caoutchouc et autre que cela? D'accord? Pour être sûr et certain que lorsque quelqu'un va venir réclamer son objet, de savoir si c'est bien la personne ou pas. D'accord? وتعرفها إذن تكون سنة كاملة. يكون سنة كاملة. فيقول يعني من فقد دراهم إن كانت دراهم فيأتي بأوصافها وعددها ووعائها ويعرفها في كل يوم، في كل يوم إن أمكن أو في الأسبوع مرتين أو ثلاث وهكذا. تعرف في زماننا بواسطة وسائل الإعلام ولا تعرف في المساجد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم. Et donc le تعريف ici, on va encore parler du تعريف pour bien que l'on comprenne, inshallah. Par exemple, celui qui يعني a perdu de l'argent. D'accord, si c'est de l'argent, par exemple. D'accord? Il doit venir et donner la description de la somme qu'il a perdue. Que ce soit donc la somme, la quantité de pièces, le récipient ou le sac dans lequel il a perdu cet argent-là. Il doit donner donc la description, yani, parfaite. D'accord? Et également, celui qui les a trouvés, il doit faire ce tarif. Au début, comme on a dit, régulièrement et souvent, tous les jours, si c'est possible, ou une fois, deux fois, trois fois par semaine, yani après cela, d'accord? Et aujourd'hui, bien sûr, on a tous les réseaux sociaux et tous les moyens de communication, yani modernes, qui font qu'on va passer par ces moyens-là de communication. Et attention, il n'est pas permis de faire le tarif dans la mosquée, ou quelqu'un yani, qui aurait perdu un objet, de rentrer dans la mosquée et de déclarer aux gens qu'il a perdu tel ou tel objet. Ça, c'est interdit. Dans le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui entend un homme yani, déclarer la perte de tel ou tel objet perdu dans la mosquée, eh bien, celui qui entend ça, qu'il dise qu'Allah Azza wa Jalla ne te rende pas cet objet, car les mosquées n'ont pas été construites pour cela. Car les mosquées n'ont pas été construites pour cela. Voyez? Donc, il a dit le prophète alayhi salatu wa salam par la suite, et lorsque son propriétaire te vient, il rend son objet, sinon tu pourras en disposer. Puis l'homme a demandé sur al-ghanam. Donc al-ghanam, que ce soit les moutons ou les chèvres, les ovins ou les caprins, il a répondu le prophète, alayhi salatu wassalam, elles sont à toi ou à ton frère, c'est-à-dire à son propriétaire, ou au loup. D'accord? Donc si tu veux, tu les prends, à condition de faire le tarif. Si tu les laisses, il se peut qu'elles soient retrouvées par son propriétaire, ou alors mangées, hein, dévorées par le loup. Puis il a posé une question sur le chameau. Le chameau égaré. Il a de répondre le prophète alayhi salatu wa salam en exprimant yani, sa désapprobation. Ma laka wa laha, yani, en gros, pourquoi tu veux la prendre alors qu'elle a avec elle siqa'uha, c'est-à-dire son ventre, hein, qui peut conserver une grande quantité d'eau, et en plus on sait que le chameau peut rester yani, longtemps sans s'hydrater, sans boire de l'eau. Elle a aussi ses hida, yani, entre guillemets, ses chaussures, dans le sens, elle a ses pattes qui peuvent la mener où elle désire, où il y a de l'eau, où il y a à manger, etc. Donc elle peut se débrouiller, elle peut se défendre, et elle n'est pas, yani, à l'abri, plutôt, elle est à l'abri, pardon, elle est à l'abri d'attaques, de petits félins et autres. D'accord? Donc elle peut se débrouiller et trouver par elle-même de l'eau, manger des arbres, etc., jusqu'à ce que son propriétaire la retrouve. D'accord? Donc le hadith muttafaqun alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Naam. Alhamdulillah. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. Et lundi prochain, on va parler de Al-Laqit. Al-Laqit, c'est l'enfant abandonné ou l'enfant qui a été yani, trouvé. Wal-ilmu indallah wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.